Revue de presse qui est signée Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous nous racontez ce matin l'histoire de ces constructeurs automobiles qui veulent plus, qui demandent plus de contrôle anti-pollution.
Et oui, après la tribune de milliardaires américains qui demandent à payer plus de taxes, ça c'était il y a un mois dans la revue en ligne Medium, voici venir un autre renversement de situation assez sensationnel comme seul l'ère Trump peut en créer. Le New York Times nous apprend que 4 des plus gros constructeurs de voitures au monde, qui représentent 30% du marché américain, viennent de conclure un accord avec l'État de Californie. Un accord donc dans le but d'être plus exigeant que le futur plan Trump sur la réduction des gaz à effet de serre. En gros, explique le New York Times, cet accord anticipe le fait que Donald Trump va cet été abroger le plan anti-pollution de son prédécesseur Barack Obama. Il veut imposer des normes moins contraignantes aux automobiles. L'objectif ne serait plus de limiter la consommation des moteurs neufs à une consommation donc de 4,7 litres d'essence au 100 km en 2025, mais d'autoriser la vente de moteurs consommant 6 litres 3 au 100, ce qui fait quand même une grosse différence. En tout, depuis que l'on connaît ces intentions de la Maison-Blanche, la Californie et 13 autres États avaient déjà fait savoir qu'elles prendraient leurs propres mesures pour maintenir les normes les plus exigeantes. Mais ce qui est nouveau, selon le Los Angeles Times, c'est que les constructeurs auto, ou du moins 4 des plus importants, se sont apparemment laissés convaincre sans difficulté et ont fait le choix de contourner une doctrine Trump qui semblait pourtant plutôt à leur avantage.
Est-ce que ça veut dire, Camille, que les constructeurs automobiles se sont transformés d'un coup comme ça en super-héros de la lutte contre le réchauffement climatique ?
Et c'est vrai qu'on a du mal à y croire, hein, nous dit Paul Vadman dans son billet pour le Washington Post, quand on sait que ces mêmes industriels se sont battus pendant des années avec Barack Obama pour empêcher que son plan anti-pollution voie le jour. Et à présent, ce sont donc eux qui vont contre la présidence pour défendre ce même plan. C'est vraiment le monde à l'envers, mais ça s'explique. Le Wall Street Journal, déjà, nous précise que 3 des 4 constructeurs en question ne sont pas des sociétés américaines. On parle de Honda, BMW et Volkswagen, auxquels s'ajoute tout de même l'américain Ford. Et puis, ils ont avantage à ce que les normes soient stables sur au moins une décennie pour pouvoir adapter les spécifications de leurs moteurs. Le plan Obama les a déjà obligés à s'adapter. Il est compliqué de tout devoir revoir et même de revenir en arrière à chaque changement de président. Enfin, les industriels de la voiture y trouvent leur compte car ils obtiennent tout de même de l'État de Californie un peu plus de temps pour atteindre les objectifs anti-pollution. Les nouvelles limitations de consommation d'essence au 100 km vont entrer en vigueur de manière plus progressive que ce que prévoyait le plan Obama pour une arrivée à l'objectif définitif en 2026 et non 2025. Ça n'empêche pas, analyse Paul Vadman du Washington Post, qu'on est bien face à un président qui dit aux plus pollueurs des industriels « Est-ce que ça ne serait pas chouette si je vous autorisais à polluer encore plus ?» Et ces derniers qui répondent « Non merci ». Et voilà qui isole un peu plus le président, dont Vadman nous dit qu'il se fiche bien du climat obnubilé qu'il est par les deux seuls sujets qui comptent pour lui, l'immigration et le commerce. Le reste, à commencer par l'Agence de protection de l'environnement, est laissé aux mains d'une bande d'escrocs et d'idéologues extrémistes liés aux lobbies industriels. Alors, quand même les industriels quittent le navire et demandent à être plus contrôlés, c'est le signe qu'on est vraiment allé trop loin, conclut l'éditorialiste du Post.
La suite de la revue de presse internationale avec vous, Camille Magnard. En Algérie maintenant, beaucoup de débats autour d'une réforme linguistique dans les universités.
Oui, depuis lundi, sur ordre du ministre de l'enseignement supérieur algérien Tayeb Bouzid, les universités du pays doivent rédiger les en-têtes de tous leurs documents administratifs en arabe et en anglais. En lisant les nombreux articles que le site Tous sur l'Algérie consacre au sujet, on comprend bien que ce qui fait débat, c'est que la langue anglaise vient remplacer et chasser le français, langue qui jusque-là en Algérie restait avec l'arabe scolaire, la langue des chercheurs et des intellectuels. Le gouvernement explique que le passage à l'anglais va permettre de meilleurs débouchés aux étudiants algériens. Il attirera aussi plus d'étudiants étrangers sur les campus du pays. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne convainc pas les journaux francophones à Alger. Car la décision, écrit Maclouf Mehni sur TSA, a été lancée il y a quelques semaines sur fond de stigmatisation du rôle prêté à la France dans la crise politique qui a cours en Algérie. Mais vouloir sanctionner la langue française pour punir la France de son ingérence supposée dans les affaires algériennes, c'est un mélange des genres qui n'a pas lieu d'être, estime Maclouf Mehni, car la langue de Molière, dit-il, n'appartient pas qu'à la France. Elle est un héritage commun pour ceux qui la maîtrisent, un butin de guerre pour l'Algérie, selon la formule consacrée de l'écrivain Kateb Yassine. Et puis, derrière la décision du ministre Bouzid, écrit cette fois Karim Kebir dans Liberté Algérie, il y a l'idée que le français ne mène nulle part et par extension que le lien entre la France et l'Algérie ne mènerait lui aussi nulle part. l'éditorialiste y voit donc de forts relents populistes et une concession aux milieux islamistes. C'est d'ailleurs ce que confirme Mohamed Tahar Messaoudi dans El Watan. Le remplacement, dit-il, du français par l'anglais, c'est surtout fait pour séduire le courant conservateur et islamiste, tant il a toujours été l'un des objectifs majeurs du FIS, le Front islamiste du salut, qui est aujourd'hui dissous. Alors on peut se demander, avec le quotidien L'Expression, s'il n'y a pas une réaction d'autodéfense dans cette presse francophone qui joue à terme sa survie dans le maintien de la langue de Molière en Algérie. Mais si tous ces journaux sont unanimes sur une chose, c'est bien pour dire, comme El Watan, qu'il s'agit là surtout d'une énième tentative de diversion de la part d'un gouvernement qui veut, par tous les moyens possibles, affaiblir le Irak, le mouvement de contestation démocratique. Les étudiants qui sont au premier rang de la mobilisation ne s'y sont pas trompés en rejetant dès mardi dans les universités cette mesure jugée avant tout démagogique, en français dans le texte.